En fait, c'est parce que c'est surtout un mécanisme d'exclusion d'une grande partie des populations et d'une partie à l'intérieur de chaque pays, des populations aussi. Et donc, le problème de la mondialisation, c'est pas qu'on va être pour ou contre la mondialisation. C'est un phénomène en tant que tel qui est peut-être irréversible. Mais cette mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui exclut des grandes parts de l'humanité et qui se fait essentiellement au profit des marchés financiers et d'un certain nombre d'entreprises multinationales, cette mondialisation-là est réversible. Les alternatives, on ne peut pas opposer à la pensée unique aujourd'hui de la mondialisation une autre pensée unique. Les alternatives doivent être d'abord le produit des populations et de ce qu'elles souhaitent. Il y a bien sûr des alternatives qui peuvent se mettre ensemble pour promouvoir au niveau des réseaux internationaux un certain nombre de mesures importantes. Pour nous, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas continuer à appuyer tous les mécanismes qui provoquent l'endettement de toute une partie du monde. Donc, un certain nombre d'alternatives concernent la suppression de la dette, concernent l'instauration d'une taxe sur la spéculation financière afin de créer des ressources, justement, et concernent aussi la mise en place, et c'est peut-être le plus important, de mécanismes de redistribution des richesses. Puisque le problème de la mondialisation aujourd'hui, c'est qu'elle produit effectivement des richesses, mais que ces richesses ne sont pas distribuées et que les mécanismes de redistribution doivent être à la fois internationaux, mais doivent être aussi en fonction des besoins de chaque peuple et des projets ou des propositions que chaque peuple peut mettre sur la table. On sait toujours très bien qu'on n'inverse pas le cours de l'histoire simplement avec des paroles ou avec des discours ou avec des grandes idées. C'est vrai qu'aujourd'hui le monde dispose des moyens financiers, des techniques, dispose de l'intelligence, du courage des peuples suffisant pour créer une mondialisation qui soit beaucoup plus juste, qui soit beaucoup plus qui préserve beaucoup mieux l'environnement, par exemple. Le problème est un problème de volonté politique et donc essentiellement le problème de comment se gère aujourd'hui au niveau mondial la mondialisation. C'est une mondialisation essentiellement sous direction du G7 et des institutions financières internationales. Et donc, pour arriver à changer le cours de cette mondialisation, ce qui est le plus urgent aujourd'hui, c'est, pour certains diront, la suppression ou le remplacement de ces institutions, d'autres diront les aménagements de ces institutions, mais il est clair que cela passe par des pressions de plus en plus fortes sur ces institutions qui gèrent aujourd'hui la mondialisation, non pas au profit des populations, mais au profit de quelques intérêts privés. Et cela passera par des moments comme ce moment-ci à Porto Alegre. Évidemment, c'est un long chemin, mais quand on prend les dernières années, c'est la première fois qu'une réunion en Amérique latine, en plus dans un lieu relativement éloigné pour beaucoup de monde, réunit tant de gens qui, à partir de luttes très différentes et parfois d'analyses politiques même divergentes, ont des conclusions, les mêmes conclusions sur la mondialisation, ont le même souci de vouloir se mobiliser pour faire changer ces grands acteurs mondiaux. Et donc, je crois que on pourra renverser le cours de la mondialisation actuelle, ou en tout cas donner à la mondialisation actuelle une fonction beaucoup plus sociale, une fonction beaucoup plus redistributrice des richesses, seulement par la pression et par l'alliance de l'ensemble des mouvements de base qui aujourd'hui se manifestent en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe de l'Est aussi, en Europe de l'Ouest, pour promouvoir des modèles de développement alternatifs qui passeront nécessairement par la remise en cause des institutions internationales qui aujourd'hui gèrent la mondialisation. Il ne faut pas du tout exclure notamment le monde parlementaire. Là où il existe, là où il fonctionne, c'est encore dans beaucoup de pays du monde, il est très important que la société civile travaille en accord avec le monde parlementaire. Il y a eu ici un forum de parlementaires qui a émis une déclaration importante. Il est très important que les parlements, parlement européen, parlements nationaux, les parlements se saisissent de ces questions-là et reprennent et redonnent aux politiques son sens noble, c'est-à-dire de gestion de la cité, de proposition, ne recède plus aux technocraties ou aux grandes bureaucraties qui aujourd'hui ont pris la mondialisation en main, tout ce pouvoir qu'elles ont, mais reprennent le pouvoir. Et moi, je crois personnellement que c'est par un travail où se retrouve à la fois la société civile dans ses aspects les plus larges, donc y compris les mouvements syndicaux, où se retrouvent les parlements, les parlementaires, où se retrouvent même certains aspects, je dirais, d'acteurs du marché, les petites et moyennes entreprises qui peuvent avoir des propositions et qui, elles, fonctionnent bien naturellement selon les règles du marché, c'est la conjonction de ces forces qui permettra de dégager des alternatives. Donc il ne faut jamais opposer société civile, monde politique, en tout cas parlementaire, et même un certain nombre de forces du marché. On n'est pas ici contre le marché, on est ici contre un marché qui aujourd'hui est organisé pour exclure la plupart des gens. Ben, l'Europe aujourd'hui, on devrait d'abord parler du rôle qu'elle ne joue pas. L'Europe est la plus grande coopération du monde, quand on prend la coopération des États et la coopération de l'Union elle-même. L'Europe joue un rôle important en sous-main dans les institutions financières internationales ou commerciales internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, on s'aperçoit là que l'Europe ne joue pas un rôle de proposition alternative, ne joue pas un rôle aussi, alors qu'elle a toujours mis en valeur le partenariat, notamment avec les pays ACP, au niveau de Lomé et de Cotonou maintenant, elle ne joue pas ce rôle d'être le porte-parole à la fois de ces populations et des populations des pays partenaires pour essayer d'impulser, de pousser des modèles alternatifs. Donc, nous pensons que l'Europe, son plus gros problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, elle est essentiellement dominée par la Commission, que la Commission suit essentiellement des lignes plutôt technocratiques, qui sont très à l'écoute des pouvoirs économiques dominants, comme l'UNICE, par exemple, la coordination patronale en Europe, mais que l'Europe politique encore reste à faire, l'Europe utopique encore reste à faire, et là aussi, les mouvements civils d'Europe ont un rôle très important à jouer. Un rôle que l'Europe, en tout cas, pourrait jouer très fortement, notamment sur le plan de l'endettement des pays du Sud, parce que c'est un des facteurs qui crée aujourd'hui les plus graves problèmes dans les pays du Sud de la planète, c'est à la fois de pousser les États à mieux articuler leur travail sur la dette, sur l'endettement, et à la fois aussi à ne pas se soumettre autant aux impératifs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en matière de programmes d'ajustement structurel. L'Europe aurait là tout un travail à faire de réels partenariats avec les pays et les sociétés civiles du Sud pour être beaucoup moins conditionnée par les décisions, par les impositions des institutions financières internationales qui, malheureusement, on l'a vu depuis très longtemps, n'apportent aucune solution à ces pays. Il est toujours très difficile, évidemment, de regarder dans la boule de cristal et de savoir où on sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Je constate seulement, et ça date d'avant Seattle a été un moment médiatique pour cela, que depuis quelques années, partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe aussi, et en Europe de l'Est, il y a tout un courant qui commence à s'agglutiner autour d'une critique radicale du phénomène de mondialisation. Porto Alegre est un moment, c'est peut-être un des moments les plus forts, les plus internationaux que l'on a connus ces dernières années. Maintenant, cela va continuer. Il y a un agenda impressionnant d'autres réunions, rencontres. L'importance de ces rencontres, c'est d'être un peu, je dirais, l'école ou l'université des mouvements de base. C'est un peu un lieu d'échange, c'est un peu un lieu de prise en conscience commune que l'on peut agir sur la mondialisation et aussi de la possibilité de mettre des agendas en commun pour un certain nombre de luttes spécifiques. Je pense que le Forum social mondial va occuper une place de plus en plus importante, qu'il se fera probablement dans un autre endroit que Porto Alegre l'année prochaine ou dans 2 ans, et qu'il va attirer de plus en plus l'intérêt des populations. Ceci dit, il ne suffit pas de discuter, il faut que tout cela après se traduise au sein des mouvements même par des propositions concrètes.